Vous écoutez la web radio du HUF en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HUF.
Bienvenue sur la radio du festival, la web radio Osmose Radio, en direct du salon du Novotel Centre. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir, alors je reprends votre nom, pas du tout l'écorcher, Aurélie Mest. Vous êtes la metteuse en scène d'un spectacle qui se joue au Figuier Pourpre tous les jours à 11h, avec une relâche le lundi, et qui s'appelle Nasreddin. Oui. C'est bien ça? Avec la compagnie Viens voir en face, c'est ça?
Exactement.
C'est joli comme tout, hein. Alors, Nasreddin, je ne parle pas l'arabe, mais je crois qu'il y a le sens de victoire ou victorieux, non, c'est pas ça?
J'en ai aucune idée, voilà. Mon approche n'est pas colle. Du tout dans cette direction.
Je vous pose une colle, je vais vous dire quelque chose, juste avant qu'on parle. Il y a des années de ça, j'étais même très jeune, je suis allée faire un voyage en Jordanie à Petra. Et le guide touristique, qui s'appelait Nasser Nasreddin, avait accolé le nom de Richelieu à côté. Nasser Richelieu. Et moi, je vais expliquer que Richelieu, c'était un personnage de l'histoire française qui n'était pas forcément très, très rigolo, quoi. Mmh. Mais lui, il disait, mais regarde, tu es à Petra, quel Richelieu. Donc, bon, Nasreddin Richelieu, on te salue. Mais on n'est pas là pour parler de Nasreddin Richelieu, on va parler de votre spectacle Nasreddin, qui est un spectacle tout public. Mmh. Hein, et c'est un spectacle, un conte-théâtre d'objets et marionnettes, c'est ça?
Oui, voilà.
Alors, il faut nous raconter un petit peu, allez-y. Je vous écoute, moi, tout le monde vous écoute, Aurélie.
Alors, Nasreddin, c'est le personnage du fou sage, qui est un personnage emblématique de la culture arabo-musulmane. En fait, il y a une tradition des histoires de Nasreddin, c'est un genre. Et ce sont des paraboles humoristique entre le conte philosophique et la blague, avec parfois une morale à tirer et parfois juste c'est une blague.
Mais ce sont des contes qu'on raconte en famille
c'est
aux enfants.
C'est des histoires qui sont millénaires.
D'accord. Qui se transmettent oralement.
Voilà, on a l'habitude de dire qu'elles ont voyagé avec la route de la soie. On sent les influences asiatiques et puis c'est passé dans le Moyen-Orient, dans le Maghreb et tout un chacun se réclame d'être la terre d'accueil de ce
bien
personnage
à qui
par moment on attribue une existence historique mais qui est très discutable apparemment d'après les universitaires qui ont étudié la question.
Alors j'ai une petite question qui me vient immédiatement à l'esprit. Puisque ces contes voyagent, est-ce qu'à chaque fois ils sont dotés de nouvelles petites choses pour agrémenter? On ne sait pas.
Postulat.
Oui, c'est ça.
C'est le postulat que dans la tradition orale, chaque personne qui raconte l'histoire devient auteur à son tour.
Oui.
Et que chacun déforme l'histoire et qu'on se retrouve au bout d'un moment avec 3 ou 4 histoires qui vont être sœurs et se ressembler très fortement. Et dont on peut supposer qu'elles ont la même origine et qu'elles ont été parce que la mémoire, c'est pas pour rien qu'on parle de téléphone arabe.
Oui,
c'est bien parce
bien
que
sûr,
dans
oui.
le monde arabe, il y a cette tradition du conte et de voilà. l'oralité. Et...
Oui, il y avait chez Erazade et ses mille et une
oui.
nuits.
Alors les mille et une nuits, c'est
autre chose.
C'est le monde chose. Arabe merveilleux.
Oui, oui.
Là, on est dans un. On dit que c'est la pensée soufie, Nasreddin.
Ah oui.
Oui.
Ah oui, c'est un détail qui a son importance quand même.
Oui.
Et alors, racontez-nous cette mise en scène, parce que conte, théâtre d'objets et marionnettes. Mmh. Bon, j'ai vu que les marionnettes, c'était des marionnettes portées.
Oui.
Et peut-être que les auditeurs ne savent pas vraiment ce que sont les marionnettes portées.
Alors. Nous, on utilise différentes appellations pour notre travail. On dit plutôt. Masque porté.
D'accord, oui.
Mais parfois, on parle de manipulation marionnettique oui. de masque.
Parce qu'il y a quand même un peu de manipulation, malgré
oui.
tout. Hein.
Notre approche est transdisciplinaire. Donc, on fait des allers-retours entre l'oralité et la mise en place de personnages et même de paysages avec des masques et des objets qui sont incrustés dans la scénographie. Et les deux comédiens qui se positionnent en conteur, narrateur... ou autour d'eux des masques, des objets, et au fil du récit, ils font naître, puis disparaître, des personnages qui sont donc des marionnettes hybrides, puisqu'il y a en général un masque et puis une partie du corps.
Oui.
Un coup, ça peut être, c'est souvent la main, un coup, ça peut être
la jambe.
On travaille beaucoup sur le morcellement, avec des fois une dislocation. Souvent, on compose un personnage et puis on va faire une blague de le... de le mettre à l'envers.
Oui, et c'est ce qui donne aussi, ce qui crée le mouvement, ce qui suit la narration aussi.
Oui, alors, en réalité, moi, je suis venue aux histoires de Nasreddin.
Oui, voilà, racontez-nous.
Pour cette forme, au départ, j'avais cette forme de masque porté qu'on avait travaillé dans un précédent spectacle. C'était une adaptation de Peer Gynt d'Ibsen. C'était un gigantesque voyage initiatique de troupes.
Mais on voyage quand même, vous avez un credo qui est le voyage.
Le voyage, le mythe, et l'amour des histoires, l'amour des récits, parce que Peer Gynt est un mythomane, un faiseur de contes. Et j'avais envie de trouver un frère de mon Peer Gynt, et je réfléchissais un petit peu parce que, enfin, je ne sais pas comment travaillent les autres, mais moi j'ai plusieurs idées de spectacle en termes de fond, mm-hmm. et j'ai plusieurs idées de forme. Et puis à un moment donné, il y a un fond et une forme qui viennent se rencontrer. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'avais cette forme de masque porté avec ce travail un petit peu, donc ce morcellement et cette notion d'absurde, de dislocation. Et je cherchais quelque chose qui pouvait coller. Et les histoires de Nasreddin, comme c'est le fou sage, c'est souvent des contes absurdes. Et j'ai imaginé 1000 sous-titres pour ce spectacle. Finalement, il n'y en a plus, mais on a imaginé « Sans queue ni tête ». Voilà, il y a cette notion de faire un pas de côté, en tout cas par rapport à la réalité, et de décalage poétique.
Ben oui, mais et alors le spectateur, parce que c'est à partir de 6 ans, et j'imagine bien que la lecture d'un enfant de 6 ans et la lecture d'un adulte de 2, c'est pas la même, mais elles doivent forcément se rejoindre sur le côté poétique, hein, parce qu'il y a forcément de la poésie qui se dégage.
Oui.
Je le vois d'ici.
Oui, alors, en général, il y a le spectacle est programmé de deux manières différentes. On fait beaucoup de scolaires, et dans ce cas-là, on s'adresse à partir du CE2 jusqu'à la 5e, parce que ça colle bien aussi avec les programmes, mais ça, à ce moment-là, les enfants, en général, adorent les histoires de Nasreddin.
Ah oui.
Donc voilà, ça, c'est la programmation scolaire. Là, ils ont dépassé l'âge de raison, et ils ont une compréhension adaptée des histoires. Et souvent, comme elles sont à double sens, souvent dans la salle, il va y avoir des personnes qui auront pigé le double sens et d'autres qui auront pris l'histoire au premier degré. Et à la fin, en scolaire, on fait un travail d'aller chercher les sens cachés, que j'aime beaucoup faire. C'est l'ouverture de l'esprit critique.
Mais
en programmation familiale...
Ça fait du bien de vous entendre parler comme ça.
Quand on a des programmations familiales, moi j'adore... Parce qu'on a des adultes et des enfants. On a parfois des enfants en dessous de la limite d'âge, et j'aime bien.
Mais oui, mais eux aussi, ils ont une lecture formidable.
Ils ont leur lecture. Ils ont leur lecture qui est différente. Et en fin de compte, une fois, on a fait une représentation devant uniquement des CP. Et les comédiens étaient assez déconcertés parce que les rires des enfants n'étaient pas du tout au moment souhaité.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils tombaient dans tous les pièges. Et il n'y avait pas de rire au moment des chutes des histoires. Alors que quand on a de l'intergénérationnel... tous les âges, eh ben, il y a le rire des deux côtés, il y a un regard des uns sur les autres spectateurs, et il y a une belle connivence, un bel esprit d'échange.
Tout à fait.
Entre les spectateurs et avec avec les acteurs.
Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu du travail du masque? Parce que sur votre dossier de presse, je vois quand même les masques sont assez impressionnants quand même.
Ouais.
C'est des masques qui sont faits par des artisans dont c'est le métier.
Donc ces masques ont été conçus, à part le masque principal de Nasreddin que j'ai fait moi-même au début de la création de Nasreddin, pour Nasreddin, les masques ont été réalisés dans l'ensemble pour Peer Gynt. Ils ont été réalisés sous la direction de Nanouche Riano, qui est une scénographe, plasticienne. Et en fin de compte, on s'est mis à trois avec Xavier, le comédien du spectacle, moi et elle. On s'est mis à trois les mains dans l'argile et on voulait trouver, dans Peer Gynt c'était les villageois, on voulait trouver le peuple, mais on voulait viser l'universel, on voulait que ce soit le tout un chacun qui aime les histoires. Et on s'est tourné vers les arts premiers. Et dans notre laboratoire, il y a des masques qui sont sortis qui ont une forme un peu de masque larvaire, et il y en a qui sont un petit peu plus accentués, un petit peu avec un peu plus de caractère. Quand on a décidé qu'on allait utiliser ces spectacles, arrêter Peer Gynt déjà, et puis utiliser les masques pour Nasreddin, quelques-uns on les a customisés, on leur a mis un turban, on leur a mis...
Oui,
On les a transformés un petit peu.
Oui, et un petit mot du décor, parce qu'ils vous
utilisez scénographie, un décor, oui. La scénographie, elle constitue d'une estrade qui fait 2 mètres par 1 mètre 50. Elle est en bois et en métal. Je m'étais dit, par rapport à ma créa précédente, il faut que tu te donnes des limites. Et la limite, c'est cette estrade. Donc autour, il y a un chevalet de peintres qui porte les masques. Et puis, il y a d'autres mobiliers qui exposent finalement les éléments, objets et masques du décor.
Alors, vous êtes la compagnie Viens voir en face, vous nous venez d'où ?
Seine-et-Marne.
D'accord. Et c'est votre premier Avignon ou pas ?
C'est votre premier Avignon.
C'est une expérience, hein ?
Ouais.
C'est une expérience. Vous tractez aussi, j'imagine,
oui.
En plein cagnard, comme on dit ici.
Ouais, on y passe trop de temps, ça nous fatigue.
C'est très fatigant.
Mais on ne peut pas ne pas le faire parce que
c'est très important.
Mais on constate quand on présente le spectacle aux gens que les gens n'ont pas. C'est très rare que les gens, par eux-mêmes, aient pu faire sortir l'information
C'est compliqué parce
livre.
Sur le catalogue de la Redoute ou Bible selon les termes. Quand on est un petit peu perdu, qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait aller voir et qu'on est, on est quand même un petit peu... Le tractage a réellement son importance. On en a parlé il y a peu avec un autre comédien. Moi, je suis très sensible au tractage, mais je suis insensible à la personne qui me dépose un tract et qui s'en va. Il faut qu'on m'explique, il faut qu'on me donne envie. Donc je comprends que solliciter le comédien qui est déjà fatigué, il a joué, il déambule en pleine chaleur. Je ne veux pas le retenir une demi-heure. Je veux juste qu'il condense un petit peu, mais qu'il me donne l'envie. Je pense que le tractage, c'est vraiment important.
On essaie de concevoir le tractage comme un moment partagé avec les spectateurs. Il arrive parce que... Concrètement, on enchaîne une expérience de tracteur. Enchaîne. Hein. D'ailleurs, j'ai senti cette notion de tracteur.
C'est ça.
Concrètement, on enchaîne. Donc, parfois, on est maladroit. Il arrive qu'on aborde quelqu'un de manière maladroite, la personne à la bouchaine. Souvent, dans ces cas-là, je m'excuse. Et parfois, je dépose le flyer parce que les regards se sont croisés et je m'en vais. Mais quand la personne est disponible, quand elle n'a pas vu 10 personnes dans les 10 dernières minutes, on discute. Des fois, je m'assois à table avec les gens.
Mais
et
c'est
on,
bien
on
ça aussi. Mais c'est le jeu du festival. Hein. Les tracts, on en reçoit. On va peut-être un peu dire un mot sur votre équipe, l'équipe qui vous accompagne. Je vois donc Xavier Depoix, c'est le comédien, conteur et marionnettiste, qui est avec vous depuis longtemps.
Repose beaucoup sur lui dans la compagnie.
Vous êtes une équipe avec une vraie cohésion, soudée, et vous travaillez ensemble, dans le même esprit, c'est important aussi.
C'est notre quatrième spectacle, le deuxième en date n'a été joué que sur un été, donc sur les trois spectacles les plus importants, avec une production assez lourde, il y avait Xavier sur les trois, parce que c'était important pour moi de... d'avoir un complice, une personne avec qui on a une méthode de travail commune. Puis évidemment, j'aime beaucoup son travail.
Bien sûr, la preuve, c'est que vous y retournez. Hein.
Je travaille avec des artistes
Adeline
sont dans la transdisciplinarité.
Adeline Dautrep, les conteuses et marionnettistes, elle est sur le spectacle aussi.
Oui. Elle, je l'ai rencontrée dans une formation. Et j'avais repéré... qu'on avait pas mal de points communs, un univers partagé, à la fois une formation de théâtre classique, et puis elle a un super univers, elle connaît plein de plasticiens, elle a une culture très importante des arts de la marionnette et des arts de l'objet,
d'accord.
Plus importante que la mienne.
Alors vous, Aurélie, vous êtes venue au théâtre apparemment, vous êtes formée au théâtre classique, je lis, hein, ah oui quand même, et licenciée de philosophie, ce qui fait que ça fait un très heureux mélange, particulièrement pour ce genre de spectacle aussi.
Et choses finissent par faire sens.
Mais tout à fait, il y a un contenu philosophique, j'ai pas vu la pièce, mais j'ai quand même un peu feuilleté votre dossier de presse, donc je me dis que le contenu... Il est philosophique, poétique et il y a certainement beaucoup de tendresse aussi. On vous voit là. Je vous vois aussi.
Dans mon
vois.
Travail, c'est un maître mot.
Oui, tout à fait. Donc, on rappelle que vous jouez au Figuier Pourpre. C'est la maison de la poésie. C'est 6 rue Figuier, pardon. En passant par la rue de la République, on arrive très facilement en rue Figuier. Il faut obliquer sur une petite rue à droite. C'est bien, ça fait du bien, elle est fraîche.
Côté de la FNAC, la
tout
rue, la petite rue
tout à fait,
Mignard,
voilà,
je
voilà.
crois, qui est à côté
c'est
de la
C'est ça, FNAC. Exactement. Et puis c'est une petite rue plutôt calme, relativement calme par temps de festival, mais c'est un très bel endroit, la Maison de la Poésie, donc c'est bien que vous y jouiez. Donc tous les jours à 11h avec une relâche le lundi, ça s'appelle Nasreddin par la compagnie Viens voir en face. Et un dernier petit mot pour donner envie aux auditeurs de venir voir. D'abord, est-ce que le public est au rendez-vous malgré tout ce...
J'aurais espéré mieux, mais on a des demi-jauges.
Ah bah c'est pas
on
si mal.
On a essentiellement
hein,
des adultes.
Mais c'est
et
bien
on a
aussi.
Des professionnels.
Oui, alors peut-être que les adultes, vous pouvez amener vos enfants, vous pouvez, je ne sais pas, si les grands-parents nous écoutent, ils peuvent venir avec leurs petits-enfants. En tous les cas, il faut... Moi, j'ai un autre maître mot, je pense qu'il faut amener les enfants au théâtre le plus tôt possible. On a eu une petite conversation hier avec un monsieur qui n'était pas de mon avis, et moi, je pense qu'il y a des créations pour les tout-petits, et ça vaut le coup d'amener les enfants tôt.
Bah là, 5-6 ans, c'est,
oui,
c'est
mais
chouette.
À partir
de 5-6 ans.
Tout à fait, à partir de 5-6 ans. Donc un dernier petit mot, Aurélie.
Quel dernier petit mot? Je ne sais pas.
Venez nous
soyez
voir.
Les bienvenus.
Eh bien voilà, soyez les bienvenus. On vous accueillera très formidablement au Figuier Pourpre, Maison de la Poésie, tous les jours à 11h, sauf le lundi. Donc le prochain lundi, c'est le 18, et puis ce sera le lundi 25. Vous êtes jusqu'à la fin du festival? Voilà, ben, on vous souhaite de remporter un grand succès pour un beau spectacle. Le visuel est très beau. Donc je pense que le spectacle doit l'être tout autant. Moi, je viendrai vous voir. Et je vous souhaite vraiment un excellent festival, puisque c'est votre premier festival. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous.
Merci à vous
à très
pour
vite.
Votre invitation.